Chapitre 46. Un messager sorti de l'ombre. Alors qu'il retournait vers la cité intérieure, à pied cette fois, Matt n'était pas certain du tout que son plan allait fonctionner. Ça ne devait pas poser de problème si ce qu'on lui avait dit était vrai. Mais il avait justement un doute à ce sujet. Évitant la place ovale devant le palais, il fit le tour de l'immense complexe, suivant des rues circulaires qui s'adaptaient à la configuration des collines. Comme pour le narguet, les dômes de la demeure royale, si proches et pourtant inaccessibles, brillaient de tout leur feu. Le jeune homme était pratiquement revenu à son point de départ, la place ovale, quand il vit enfin ce qu'il cherchait. Un versant de collines abruptes, semées de fleurs, et qui montait de la rue jusqu'à un mur de pierre blanche brute. Des branches feuillues dépassaient du mur, et on devinait qu'il y avait d'autres grands arbres derrière. Rien que de très normal dans un des jardins du palais.
Un mur qui ressemble à une falaise et un jardin derrière. Rand disait peut-être la vérité.
Regardant à droite et à gauche, Matt constata que cette section de la rue lui appartenait pour le moment. Mais il devrait se dépêcher, car avec les tournants, la visibilité n'était pas bien bonne, et un gêneur pouvait débouler à tout moment. Il gravit donc le versant à toute vitesse, sans se soucier des ravages que faisaient ses bottes dans le massif de fleurs rouges et blanches. Comme on pouvait s'y attendre, le mur brut se révéla généreusement doté en prises, et l'ascension devrait en principe être un jeu d'enfant.
« Étonnante cette négligence !»
pensa Matt pendant qu'il grimpait. Un moment, cet exercice le ramena dans son enfance, à l'époque où Rand, Perrine et lui s'étaient aventurés dans les collines de sable, sur les contreforts des montagnes de la brume. Lorsqu'ils étaient revenus à Chandemond, ils avaient dû subir le courroux, voire la rage, de tous les gens qui avaient pu leur mettre la main dessus. Matt, plus que les deux autres, parce qu'on le soupçonnait, une habitude dans son village, d'être l'instigateur de l'excursion. Mais pendant 3 jours, ils avaient escaladé des falaises, dormi à la belle étoile, mangé des œufs volés dans des nids d'oiseaux à crête rouge, fait rôtir des oies sauvages abattues d'une flèche ou d'une pierre de fronde, et savouré des lapins pris au collet. Tout ça en se vantant de se ficher de la mauvaise réputation des montagnes et en riant aux éclats à l'idée du trésor qu'ils espéraient trouver. De cette expédition, Matt avait rapporté un étrange caillou dans lequel était enchâssée la tête d'un poisson, une curiosité vraiment, une magnifique plume blanche perdue par un aigle des neiges, et un fragment de pierre blanche large comme sa main, qui semblait avoir été sculpté pour ressembler à une oreille humaine. Selon Matt, c'était bien une oreille de pierre. Même si Rand et Perrine ne partageaient pas cette opinion, Tam Altor s'était plutôt rangé de son côté. Trop distrait, Matt rata une prise, faillit glisser et se rétablit de justesse. S'accrochant des deux mains au rebord du mur, il se hissa dessus à la force des bras. Prenant le temps de respirer, il pensa à la chute qu'il venait d'éviter. Rien de vertigineux, mais quand même de quoi se briser le cou s'il était mal tombé.
Quel crétin ! Laissez vagabonder mon esprit comme ça.
J'avais déjà failli me tuer sur les falaises à cause de tout ça.
Un passé depuis longtemps révolu de toute façon.
La connaissant, sa mère avait déjà dû jeter les 3 reliques. Regardant une fois encore à droite et à gauche, pour s'assurer qu'on ne l'observait pas, Matt se laissa tomber dans un jardin du palais royal. Un parc plutôt, avec des sentiers dallés qui serpentaient entre les bosquets et les massifs de fleurs, et des vignes grimpantes sur toute la surface des murs. Pour un amateur de fleurs, c'était un paradis. Matt admira de magnifiques boutons blancs sur les poiriers et les fleurs rouges et blancs qui foisonnaient sur les pommiers. Bien entendu, il y avait là des roses de toutes les couleurs, du jaune soleil à l'écarlate des gloires d'Edmond, sans parler de variétés qu'il n'avait jamais vues. Certaines lui parurent trop fantastiques pour être réelles. Les pétales pourpres et or d'une de ces fleurs ressemblaient à s'y méprendre des oiseaux, alors qu'une autre avait toutes les caractéristiques d'un tournesol. N'était son diamètre de plus de 2 pieds et la taille de sa tige, qui ne devait pas être loin de celle d'un ogier. Des bruits de bottes l'alertant, Matt s'accroupit derrière un buisson et regarda passer 2 gardes de la reine dont le col blanc en V recouvrait en partie le plastron étincelant. Les 2 hommes ne tournèrent jamais la tête dans la direction de l'intrus.
La chance toujours.
Si elle continue à me sourire, j'aurai remis la lettre à Morgaz avant que quiconque s'aperçoive de ma présence.
Matt avança dans le jardin, furtif comme s'il pistait des lapins et se réfugiant derrière un arbre ou des broussailles dès qu'il entendait des bruits de pas. 2 autres binômes de sentinelles l'obligèrent à se dissimuler, le second passant si près qu'il aurait suffi à Matt de faire 2 pas pour leur pincer les fesses. Alors qu'il s'éloignait au milieu des arbres et des buissons,
Matt cueillit une magnifique fleur rouge et se la piqua dans les cheveux en souriant. Se jouer des soldats était beaucoup plus facile que voler des parts de tarte aux pommes le jour de la fête du soleil. Car si les femmes veillaient toujours jalousement sur le produit de leur fourneau, les militaires, en tout cas ceux-là, marchaient en regardant le bout de leurs bottes. Matt ne tarda pas à atteindre le mur blanc du palais proprement dit. Le longeant à l'abri d'une haie hérissée de roses blanches, il se mit en quête d'une porte. Au-dessus de sa tête, les hautes fenêtres ne manquaient pas, mais s'il devait se faire surprendre, mieux valait que ce soit dans un couloir, pas en escaladant une façade. Deux nouveaux soldats apparurent. S'ils ne modifiaient pas leur trajectoire, ils allaient passer à trois pas de lui. Dans son dos, filtrant d'une fenêtre, Matt capta les échos d'une conversation entre deux hommes.
« Un chemin porté à, grand maître !»
dit une première voix sur un ton obséquieux qui masquait mal une grande anxiété.
« Laissons-les saboter ses plans si c'est possible, »
répondit un homme à l'évidence habitué à commander.
« Si trois donzelles sans entraînement lui mettent des bâtons dans les roues, ce sera bien fait pour lui. Il a toujours été stupide et ça n'a pas changé. Avons-nous des nouvelles du garçon ? Lui, en revanche, il peut nous détruire tous. Non, grand maître, il a disparu. Mais une des donzelles en question est la fille de Morgaz. »
Matt se tourna à demi puis s'immobilisa. Les soldats approchaient toujours, mais ils semblaient ne pas l'avoir vue.
Plus vite, espèce d'idiot ! Filez afin que je puisse voir qui parle.
Contraint de s'occuper de plusieurs choses à la fois, il avait loupé une partie de la conversation.
S'est montré beaucoup trop impatient depuis qu'il a recouvré sa liberté. Il n'a jamais compris que les bons plans avaient besoin de temps pour mûrir. Il veut le monde en un jour, et Kalandor en prime. Que le grand seigneur l'emporte. Il pourrait capturer la fille et tenter de l'utiliser à ses propres fins. Ce qui contrarierait mes plans. C'est vrai, grand maître. Dois-je ordonner qu'on la fasse sortir de Théar ? Non. Si ce crétin l'apprenait, il croirait que c'est une agression contre lui. Et qui peut dire ce qu'il choisira de surveiller, en plus de l'épée ? Comar, assure-toi que sa mort n'est rien de spectaculaire. Je veux qu'elle quitte ce monde sans attirer l'attention, c'est compris ?
L'homme ricana.
Les catins ignorantes de la Tour Blanche vont avoir du mal à la renvoyer chez elle après sa disparition. C'est bien mieux comme ça, je crois. Qu'on en finisse le plus vite possible, avant qu'il ait eu le temps de s'emparer d'elle.
Les deux soldats passaient devant Matt, qui supplia à leurs pieds de bien vouloir bouger un peu plus vite.
« Grand maître, » dit le type obséquieux, « ça risque d'être difficile. Nous savons qu'elle est en route pour Théar, mais nous avons retrouvé à Haringill le navire sur lequel elle naviguait, et toutes les trois n'y étaient plus. Comment savoir si elle a pris un autre bateau ou si elle chevauche vers le sud ? Et la trouver ne sera pas plus aisée lorsqu'elle aura atteint Théar, grand maître. Peut-être si vous... N'y a-t-il plus que des imbéciles en ce monde ? Tu crois que je peux aller à Théar sans qu'il le sache ? Je n'ai pas l'intention de l'affronter si tôt. Comar, apporte-moi la tête de cette fille. Les trois têtes de ces femmes, en fait. Sinon, tu me supplieras de placer la tienne sous la hache d'un bourreau. Oui, grand maître, il en sera fait comme vous le désirez. Bien sûr, bien sûr.
Les soldats passèrent, le regard rivé devant eux. Dès qu'il aperçut leur dos du coin de l'œil, Matt se retourna, sauta pour s'accrocher au rebord de la fenêtre et jeter un coup d'œil à l'intérieur du palais. Il remarqua à peine le tapis à franges du Tarabone, qui devait pourtant valoir l'équivalent d'une bourse de pièces d'argent. Une porte était en train de se fermer, et un grand homme aux larges épaules, sa poitrine musclée distendant la soie verte de sa veste brodée de fils d'argent, la fixait de ses yeux bleus foncés. Matt remarqua qu'il portait une barbe noire coupée très court, avec une étroite mèche blanche juste au milieu du menton. Un vrai dur, habitué à donner des ordres, et sans pitié quand on ne les exécutait pas.
« Oui, grand maître, »
dit-il soudain au battant qui venait de se refermer. Matt faillit en lâcher le rebord de la fenêtre. Il pensait avoir sous les yeux le type à la voix assurée, mais c'était celui qui dégoulinait d'obséquiosité. Il ne dégoulinait plus pour l'instant, et ça ne changeait rien à l'affaire.
« J'obéirai, grand maître. J'irai même jusqu'à décapiter moi-même les trois donzelles, quand je leur aurai mis la main dessus. »
L'homme avança vers la porte, et Matt se laissa glisser sur le sol. Un moment, il resta accroupi derrière les rosiers. Au palais, quelqu'un désirait la mort d'Elaine,
et accessoirement celle d'Egwen et de Nineveh.
Mais que vont-elles faire à Théar?
Car bien sûr, les trois donzelles ne pouvaient être personne d'autre qu'elle. Matt sortit la lettre d'Elaine de la doublure de sa veste et la regarda, les sourcils froncés. Grâce à cette missive, Morgaz le croirait peut-être. De plus, il pourrait lui décrire un des deux hommes. Mais il ne fallait plus traîner. Le grand type obséquieux, à 16 heures seulement, risquait d'être parti pour Théar avant qu'il ait trouvé Morgaz. Et quoi qu'elle décide de faire après l'avoir écouté, rien ne garantissait que ça suffirait à sauver les trois filles. Après avoir pris une grande inspiration, Matt sortit de sa cachette, au prix de quelques écorchures, puisque ses roses, comme toutes les autres, avaient leurs épines, et se lança à la poursuite des deux soldats. Brandissant la lettre en s'arrangeant pour que le sceau au lilas soit parfaitement visible, il prépara soigneusement le discours qu'il allait tenir. Lorsqu'il ne voulait surtout pas se faire repérer, les gardes étaient plus nombreux que des escargots après la pluie. Maintenant qu'il voulait en voir, il devenait plus rare que des truffes dans un sous-bois. Matt passa devant plusieurs portes, mais il jugea trop risqué de s'introduire dans le palais sans y avoir été invité. Dans ce genre de cas, les gardes devaient étriper les intrus d'abord et les interroger ensuite. Pourtant, si rien ne se passait, il allait devoir prendre le risque. Par bonheur, une de ces portes s'ouvrit pour laisser sortir un jeune officier qui portait son casque sous le bras. L'homme dégaina d'instinct son épée, libérant un bon pied d'acier avant que Matt eût le temps de lui tendre la lettre.
« Capitaine, Elaine, la fille héritière, m'a chargé de remettre cette lettre à sa mère, la reine Morgaz. »
Présenté comme ça, on ne pouvait pas s'y tromper. Du coin de l'œil, l'officier s'assura qu'il n'y avait pas d'autre intrus dans le coin. Puis son regard s'attarda sur la lettre et son sceau.
« Comment es-tu entré dans le jardin ?»
demanda l'officier. Il ne finit pas de dégainer son arme, mais ne la remit pas non plus au fourreau.
« Elbert est en poste au portail. C'est un imbécile, mais il ne laisserait pas un inconnu entrer et se balader dans les jardins.
Un gros type aux yeux de fouine ?»
Matt se maudit d'avoir une si grande gueule, mais son interlocuteur eut l'ombre d'un sourire et hocha la tête. Cela dit, il ne relâcha pas sa vigilance.
Quand il a su que je venais de Tarvalon, il a piqué une colère, sans me laisser le temps de lui montrer la lettre ni de mentionner la fille héritière. Comme il m'a menacé de la prison, j'ai filé, et je suis revenu en douce. « Capitaine, j'ai juré de remettre cette lettre à la reine Morgaz, et je tiens toujours parole. »«
Vous avez vu le sceau ?»«
Tu as escaladé le mur du jardin, c'est ça ? J'ai toujours dit qu'il devrait être 3 fois plus haut. »« Pour ta gouverne, je suis lieutenant de la garde, pas capitaine. »« Je me nomme Talonvor, et j'ai reconnu le sceau de la fille héritière. »
Rengainant enfin son épée, il tendit la main gauche à Matt.
« Donne-moi la lettre et je la porterai à la reine. »« Après t'avoir accompagné à la sortie. » S'ils te surprennent à rôder dans le jardin, d'autres soldats pourraient être moins accommodants que moi.
« J'ai promis de remettre la missive en main propre, »
dit Matt.
« Par la lumière, je n'aurais jamais cru que ce serait si difficile. »
« J'ai donné ma parole à la fille héritière et... »
Matt eut à peine le temps de voir bouger la main droite de Talonvor. En un éclair, il se retrouva avec la lame d'une épée sur la gorge.
« Je vais te conduire devant la reine, paysan. Mais si tu tentes de lui faire du mal... » « Sache que je peux te décapiter avant que tu aies le temps de cligner des yeux. »
Matt se fendit de son plus beau sourire. Le contact de l'acier sur sa peau lui donnait des sueurs froides, mais il avait toujours été bon comédien.
« Je suis un loyal sujet d'Andor, »
dit-il.
« Et un fervent fidèle de la reine. Puisse la lumière briller à jamais sur elle. Si j'avais été ici pendant l'hiver, j'aurais été loyal au seigneur Gabriel, c'est certain. »
Talonvor eut une moue dubitative, puis il écarta sa lame du cou de Matt, qui dut faire un effort pour ne pas se la palper frénétiquement en quête d'une coupure.
« Enlève cette fleur de tes cheveux, paysan. Tu crois être ici pour jouer les jolis cœurs ?»
Matt retira la fleur et emboîta le pas au lieutenant.
« Misérable imbécile. Me mettre une fleur dans les cheveux. Il va falloir que j'arrête mes bêtises un de ces jours. »
Même si Matt le suivait, Talonvor garda un œil sur lui pendant tout le chemin. Du coup, ils devaient donner un étrange spectacle tous les deux. Talonvor sur ses gardes qui marchaient en tournant la tête, et Matt, soucieux d'avoir l'air plus innocent qu'un bébé qui barbote dans une baignoire. Les tapisseries et les tapis, même dans les couloirs, valaient tous une petite fortune. Ici, l'or et l'argent étaient partout, rehaussant le mobilier ou servant de matière première aux plus petits objets décoratifs et à toute la vaisselle. Dans un décor au moins aussi somptueux que celui de la Tour Blanche, les serviteurs des deux sexes en livrée rouge, avec le col et les manches en dentelle blanche, arboraient tous sur la poitrine le lion blanc d'Andorre et couraient dans tous les sens comme si leur vie en dépendait. Matt se demanda si Morgaz jouait au dé.
Encore une idée de Pecno.
Les reines ne font pas ce genre de choses. Mais quand je lui aurai remis la lettre, la prévenant en plus d'un complot contre Elaine, je suis sûr que Morgaz me donnera une bourse bien pensue.
Matt imagina un instant ce qu'on éprouvait lorsqu'une souveraine vous anoblissait. Le sauveur de la fille héritière pouvait espérer une telle récompense, non?
Ayant suivi Talanvor sur une infinité de couloirs et de cours intérieurs, Matt doutait d'être capable de retrouver seul son chemin si le besoin s'en faisait sentir. Tout d'un coup, dans une cour entourée de colonnades, les serviteurs se firent plus nombreux que des fourmis dans un garde-manger. Près d'une fontaine où des poissons jaunes nageaient paresseusement entre des lys blancs, des hommes et des femmes en riches atours faisaient assaut de révérences et de sourires à l'intention d'une femme rousse assise sur le bord du bassin. Le bout de ses doigts frôlant l'eau, la noble dame regardait avec mélancolie les poissons qui tournaient autour de sa main, la bouche ouverte en quête de nourriture. Matt remarqua la bague au serpent qui brillait à l'annulaire de la femme. Debout à ses côtés, un grand homme à la peau noire semblait veiller sur la jeune dame. Mais le jeune homme ne lui accorda qu'une attention discrète, même s'il prit note de sa veste d'uniforme rouge, lestée d'ornements en or. Seul Morgaz l'intéressait. Car c'était elle. Il n'avait pas eu besoin pour le deviner de voir son étole blanche rayée de rouge, ornée du lion blanc d'Andorre. Matrim Cotton, de Chandemond, avait devant lui Morgaz, reine d'Andorre par la grâce de la lumière, protectrice du royaume et du peuple, et hôte cher de la maison Trakande. Toute la beauté d'Elaine, mais avec une profondeur et une grâce que la fille héritière n'aurait pas avant d'avoir mûri. Toutes les femmes présentes dans cette cour, écrasées par cette incroyable aura, devenaient transparentes à l'instant même où on posait les yeux sur Morgaz.
« Je danserai bien une gigue avec elle, avant de lui voler un baiser au clair de lune. Et qu'importe son âge !»
Se surprenant en flagrant délit d'idiotie, Matt se morigéna.
« Bon sang. Rappelle-toi qui elle est exactement !»
Talanvor mit un genou en terre, un poing reposant sur le sol en marbre blanc.
« Majesté, j'ai ici un messager qui vous apporte une missive de Dame Elaine. »
Matt étudia la posture de l'officier, puis se contenta d'une profonde révérence.
« Cette lettre vient de la fille héritière, Majesté. »
Le jeune homme tendit la missive, le sceau bien visible.
Dès qu'elle l'aura lue et sera rassurée sur l'état de santé d'Elaine, je lui dirai la suite.
Morgaz riva ses yeux bleus sur le jeune messager.
Bon sang, j'espère que ça l'aura mise de meilleure humeur.
Tu m'apportes une lettre de ma tête brûlée de fille? Au moins ça veut dire qu'elle est vivante. Où est-elle donc?
À Tarvalon, Majesté.
Tant de colère à peine contenue.
Pas la lumière. Je donnerais cher pour voir Morgaz et la chair d'Amerline se défier du regard.
Après réflexion, Matt s'avisa qu'il n'était pas sûr d'y tenir tant que ça.
Enfin, elle y était quand je suis parti.
Sur un geste impatient de la reine, Talanvor se releva, prit la lettre à Matt et la lui apporta. Considérant un moment le sceau, elle finit par le briser d'un geste sec. Puis elle lut en secouant la tête, comme si elle n'en croyait pas ses yeux.
Elle ne peut pas en dire plus, c'est ça? Nous verrons bien si elle campe sur cette position.
Morgaz s'épanouit soudain.
Caïbril, elle a été admise parmi les acceptés. Tu te rends compte? Après moins d'une année à la tour.
Le sourire disparut.
Quand je lui mettrai la main dessus, elle regrettera de ne plus être une novice.
Quelque chose peut mettre cette femme de bonne humeur?
Se demanda Matt, affolé. Il décida pourtant de se jeter à l'eau. Mais il aurait préféré que la reine n'ait pas l'air d'être sur le point de prononcer une sentence de mort.
Majesté, par le plus grand des hasards, j'ai entendu...
Silence, paysan,
dit le noir en veste d'apparat. Les traits délicats, il aurait pu faire concurrence à Galad en matière de beauté, et il semblait presque aussi jeune que lui malgré ses tempes grisonnantes. Mais il était plus costaud que le prince. Quelque chose comme la taille de Rande et les épaules de Perrine, en somme.
Nous t'écouterons dans un moment,
ajouta-t-il. Il prit la lettre à Morgaz, qui le foudroya du regard mais se calma dès qu'il lui posait une main sur l'épaule, sans détourner un instant les yeux de la lettre. Comme par miracle, la colère de la reine fondit.
« On dirait qu'elle a quitté de nouveau la tour, »
fit l'homme une fois sa lecture terminée.
« Sur ordre de la chair d'Amerline. Cette femme te défie une nouvelle fois, Morgaz. »
Matt n'était pas le moins du monde mari d'avoir dû se taire.
Encore la chance. »
De toute façon, sa langue pesait des tonnes. Parfois, je me demande si cette chance est une bonne ou une mauvaise chose. L'homme que Morgaz venait d'appeler Gabriel était le grand maître qui voulait la tête d'Elaine.
« Le conseiller de la reine veut faire assassiner la fille héritière ? Pas la lumière, c'est de la folie !»
Et Morgaz regardait ce félon avec les yeux d'un chien en admiration devant son maître. Gabriel se tourna vers Matt.
« Que voulais-tu nous dire, jeune homme ?»«
Eh bien, rien, monseigneur. »
Matt se racla la gorge, plus mal à l'aise sous le regard de cet homme que sous les yeux pourtant perçants de la chair d'Amerline.
« J'étais à Tarvalon pour voir ma sœur. C'est une novice, Else Greenwell. Je me nomme Tom Greenwell, seigneur. Dame Elaine ayant appris que je voulais visiter Kemlin avant de retourner chez moi, je viens de Comfrey, un village au sud de Berlon. Elle m'a confié cette lettre pour la reine. Avant Tarvalon, je n'avais jamais vu de grande ville, alors j'essaie d'en profiter. »
Morgaz avait tiqué en entendant parler d'un village au sud de Berlon, mais Comfrey existait bel et bien.
« Sais-tu où Elaine avait l'intention d'aller, mon garçon ?»
demanda Gabriel.
« Et pour accomplir quelle mission ? Si tu dis la vérité, il ne t'arrivera rien. Dans le cas contraire, tu seras soumis à la question. »
Matt n'eut pas besoin de se forcer pour avoir l'air inquiet.
« Seigneur, j'ai vu une seule fois la fille héritière. » Elle m'a donné la lettre, plus une pièce d'or, et m'a demandé de l'apporter à la reine. Je ne sais rien de plus sur tout ça. »
Gabriel réfléchit à ce qu'il venait d'entendre. Y croyait-il ou non, c'était impossible à dire.
« Non, Gabriel, »
dit soudain Morgaz.
« Trop de gens ont déjà été soumis à la question. Tu m'as convaincu qu'il le fallait, mais dans ce cas, je ne te suivrai pas. Ce garçon ignore tout du contenu de la lettre qu'il m'a apportée. »
« Comme tu voudras, Majesté, »
capitula Gabriel. Un ton plein de respect, sans nul doute, mais quand il frôla du bout des doigts la joue de Morgaz, elle rosit légèrement, et ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elles étaient en quête d'un baiser.
« Tom Greenwell, comment se portait ma fille quand tu l'as vue ?»«
Majesté, elle souriait et avait la langue bien pendue, enfin, je veux dire... »
Morgaz sourit de la confusion du jeune homme.
« Ne t'excuse pas, mon garçon. » Elaine a pour de bon la langue bien pendue, et ça lui joue souvent des tours. Je suis contente de la savoir en bonne santé. »
Morgaz dévisagea attentivement Matt.
Un jeune homme qui part de son village a souvent du mal à y revenir. Je crois que tu voyageras beaucoup avant de revoir Comfrey, mon ami. Qui sait, tu retourneras peut-être à Tarvalon ? Si c'est le cas, et si tu vois ma fille, dis-lui que les propos tenus sous le coup de la colère n'ont souvent aucun poids. Je ne la forcerai pas à quitter la Tour Blanche avant l'heure. Dis-lui que je pense souvent à mon séjour là-bas et que les conversations avec Sheriam, dans le calme de son bureau, me manquent terriblement. N'oublie pas ce dernier point, Tom Greenwell.
C'est que... Oui, bien sûr, Majesté, mais... Eh bien, je n'ai pas l'intention d'y retourner. Une visite suffit amplement dans la vie d'un homme. Et mon père a besoin de moi à la ferme. Sans moi, mes sœurs sont obligées de traire les vaches et...
Gabriel éclata de rire.
Tu es pressé d'aller traire les vaches, paysan. Tu devrais plutôt voir un peu le monde avant qu'il change. Tiens.
Le conseiller sortit une bourse de sa poche et la lança à Matt.
Si Elaine t'a donné une pièce d'or pour jouer les messagers, pourquoi ne t'en donnerais-je pas 10 pour te récompenser? Vois du pays avant de t'enterrer avec tes vaches, mon garçon.
Oui, seigneur.
Matt brandit la bourse et eut un pâle sourire.
« Merci, seigneur. »
Mais Gabriel l'avait déjà oublié. Se tournant vers Morgaz, il plaqua les poings sur les hanches.
« Majesté, je crois que l'heure est venue de cautériser la plaie béante qui souille la frontière d'Andorre. Par ton mariage avec Taringale d'Amodred, tu peux avoir des prétentions sur le trône du soleil. Les gardes de la reine peuvent faire valoir tes droits, je m'en porte garant. Et il se peut que je sois en mesure de les aider, avec mes modestes moyens. Je t'en prie, écoute-moi. »
Talanvor tapota le bras de Matt. En s'inclinant, tous deux reculèrent et s'éclipsèrent. Personne ne s'en aperçut dans la cour. Gabriel parlait, et toute cette noblesse semblait suspendue à ses lèvres. Même Morgaz, bien qu'elle fronça parfois les sourcils, un rien dubitative.